prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et prenez Luc chapitre 22 pendant un instant. Luc chapitre 22, et au milieu du verset 20, il y a la phrase où Jésus parle, et il dit: ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. Donc réfléchissez un peu de cette phrase, surtout de ce mot alliance. Jésus parle d'une alliance. Vous savez, j'imagine ce que c'est une alliance. Une alliance, tout simplement, c'est un contrat ou un accord ou un pacte, on peut dire même, entre des personnes ou des collectivités dont chacune s'engage à respecter des obligations mutuelles. Donc c'est un accord entre deux individus ou deux groupes de personnes. Et Jésus parle d'une alliance. Mais ce n'est pas n'importe quelle alliance, c'est une alliance qui est conclue dans le sang. Donc c'est une alliance qui va porter une des personnes dans cette alliance jusqu'à la mort. C'est ce que nous dit ce mot sang, vous portez jusqu'à la mort. Mais Jésus ne parle pas ici de n'importe quelle alliance, même dans le sang. Il parle, vous le voyez, d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Et cette référence à une nouvelle alliance suggère qu'il doit y avoir déjà eu, quoi? Une ancienne alliance. Et le fait que Christ dit ici que cette nouvelle alliance est conclue par mon sang suggère que l'ancienne alliance a été conclue par le sang d'un autre. N'est-ce pas? Et donc c'est ces deux alliances que je veux que nous considérons ce matin, l'ancienne et la nouvelle. Et maintenant avec cette phrase à l'esprit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue dans mon sang, prenez avec moi Hébreux chapitre 9. On ne va pas y rester longtemps, mais on va revenir après. Donc si vous avez un bout de papier ou quelque chose, mettez-le à la place d'Hébreux chapitre 9, qu'on puisse le retrouver plus tard. Mais Hébreux chapitre 9 et verset 20, nous voyons cette phrase. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc vous voyez qu'on parle ici encore d'une alliance, comme en Luc chapitre 22. Nous parlons aussi du sang, comme en Luc chapitre 22. Mais de quelle alliance parle-t-on ici? Si vous regardez un verset plus haut, vous découvrirez que c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël et que le sang dont il parle est le sang des quoi? Des veaux et des boucs. Donc vous avez deux images ici dans ces deux versets. Vous avez Moïse qui se lève devant toute l'assemblée avec le sang d'animaux sur ses mains. Et Moïse dit au peuple: ceci est le sang de l'alliance. Et puis vous avez Jésus-Christ qui se tient devant ses disciples et il se lève dans sa main la coupe comme symbole du sang et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc je veux nous mener sur un parcours de ces deux alliances, de l'inauguration de la première à son échec, à la promesse d'une autre alliance, à son inauguration et finalement à sa célébration qui se produira quand nous prenons le pain et la coupe. Donc d'abord, considérez l'inauguration de l'ancienne alliance. D'accord? On va tourner pas mal ici, mais cherchez avec moi Exode chapitre 24. Gardez la place en hébreu, parce qu'on va revenir bientôt. Prenez avec moi Exode chapitre 24. Exode, c'est facile à trouver, n'est-ce pas? Il y a Genèse tout au début, tout de suite après, il y a Exode et le verset 24. Et je vous fournirai bientôt les preuves bibliques du fait que l'ancienne alliance est ce qui est connu comme l'alliance de Moïse. Mais pour le moment, pour éviter de nous faire tourner trop de pages, et pour vous fatiguer les doigts, je vous demande d'accepter ce fait, même si vous devez l'accepter avec une certaine réserve, de sorte que nous puissions observer ensemble l'inauguration de cette ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance de Moïse, parce qu'on va les comparer dans un instant. Suivez avec moi Exode chapitre 24, nous considérons ici l'inauguration de l'ancienne, de la première alliance, l'alliance de Moïse. Dieu dit à Moïse, verset 1, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Oui, s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint, verset 3, rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Bon, c'est pas trop ce qui se passe ici jusqu'à présent. Nous savons qu'il y a plein de paroles, plein de lois qui ont été données. Ils ont été écrites dans un livre. Et puis il y a des sacrifices maintenant qui sont offerts à Dieu. Verset 5, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il le répandit sur l'autel et il prit, verset 7, le livre de l'alliance. Alors, maintenant nous savons un peu ce qui se passe. Il y a une alliance qui est en train de se faire entre Dieu et le peuple d'Israël et toutes les paroles de l'alliance sont maintenant écrites dans ce livre qu'on appelle le livre de l'alliance et il le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Hein, ils ont beaucoup de force pour le dire, mais comme nous verrons tout à l'heure, point de force pour le faire. Ils veulent bien participer à cette alliance. Et ils ont dit, on va bien garder notre part de l'alliance. On va obéir, on va faire tout ce que Dieu demande de nous. Alors, verset 8, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, nous avons déjà lu ces paroles en Hébreux 9, voici le sang de l'alliance, voyez, le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ces paroles. Rapidement, notez plusieurs choses concernant cette alliance. D'abord, nous voyons qu'elle était entre deux groupes, Dieu et le peuple d'Israël. Hein, il dit dans verset 8, c'est l'alliance que l'Éternel a fait avec vous. Et nous allons voir tout à l'heure que la nouvelle alliance, c'est entre Dieu et son peuple, n'est-ce pas? Et puis nous voyons que l'alliance a été ratifiée par le biais d'un médiateur. Et dans ce cas, c'est Moïse. C'est pas Dieu directement au peuple, c'est Moïse qui s'approche de Dieu. Les autres, ils restent plus loin. C'est Dieu qui donne sa loi à Moïse. C'est Moïse qui est le médiateur de cette alliance. Et puis nous voyons bien sûr que l'alliance a été scellée avec l'effusion du sang. Ici, c'est le sang des animaux. Et ces sacrifices étaient une partie très en vue de cette cérémonie entière. Parce que vous avez dans le verset 5, si vous regardez, le mention du fait que des taureaux ont été sacrifiés. Le verset 6 concerne entièrement ce qui est fait avec le sang. Et dans le verset 5, le sang est répandu sur le peuple, sang qui est ensuite appelé le sang de l'Alliance. Donc c'est une partie très importante de l'inauguration, cette effusion de sang. Et en fait, l'auteur d'Hébreux va accorder beaucoup d'importance à cette inauguration de l'Alliance par le biais du sang. Donc si vous avez gardé votre place en Hébreux, nous pouvons quitter Exode, nous n'allons pas y revenir. Mais regardez Hébreux chapitre 9 et verset 18 et écoutez ce que dit l'auteur d'Hébreux concernant cette première alliance. Hébreux 9, 18, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Vous voyez ce qu'il dit? C'est important pour lui. Pourquoi? Bon, on le verra tout à l'heure, mais c'est important pour lui de noter le fait que c'était avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est évident, soit qu'il parle ici de l'alliance que nous avons vue en Exode 24... C'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ce qu'il est en train de dire, c'est même la première alliance n'a pas été inaugurée ou lancée sans l'effusion du sang. Et puis, il se réfère à Exode 24. Et ça, d'ailleurs, c'est la première de plusieurs preuves que nous verrons que la première ou l'ancienne alliance est une référence à l'alliance de Moïse. Parce qu'il dit la première alliance, et puis, il fait référence à Moïse. Regardez le verset 19. Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hyssope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant ceci, et maintenant il cite les mots de Moïse trouvés en Exode 24, verset 8, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement, verset 21, l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang est essentiel à cette inauguration de la première alliance. Mais le sang était pas seulement nécessaire pour l'inauguration de l'alliance, mais aussi pour la réparation de l'alliance quand les termes de l'alliance étaient brisés. Si vous connaissez même un peu l'alliance de Moïse, vous vous rendez compte qu'il y avait des termes spécifiques que le peuple devait garder. Et il y avait des instructions spécifiques qui devaient être suivies au cas où les termes étaient brisés. Et ceci impliquait normalement le sacrifice d'animaux. Donc nous savons que dans l'ancienne alliance, c'était pas qu'au début, c'était pas qu'à l'inauguration de l'alliance qu'on a versé du sang, mais c'est tout au long du chemin, à chaque fois que quelqu'un brisait les termes de l'alliance, il fallait encore verser encore du sang. Et bien sûr, il faut comprendre que ces sacrifices n'ont jamais été considérés comme propices en eux-mêmes, mais symboliques. Néanmoins, ils étaient nécessaires si on voulait demeurer dans la communion avec Dieu tout en vivant sous cette alliance. Il ne faut pas penser, comme certaines personnes pensent, que dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés parce qu'ils offraient des sacrifices. Non, les sacrifices dans l'Ancien Testament n'étaient jamais considérés comme propices. L'Écriture clarifie qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais parce que c'était les sacrifices d'animaux qui étaient la réponse prescrite par Dieu, on ne pouvait pas rester dans la communion avec Dieu tout en les ignorant. Donc il fallait le faire. Et donc sous les dispositions de cette alliance, il existait une effusion de sang incessante et sans fin. On versait toujours plus de sang, plus de sacrifices. Chaque fois que les termes de l'alliance étaient brisés, il y avait des jugements à venir, il y avait des sacrifices à faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette alliance? Est-ce qu'elle a bien marché? Est-ce que le peuple Israël a pu garder sa part de l'alliance? Et la réponse est bien sûr que quoi? Que non, ils n'ont pas gardé l'alliance. L'alliance était même un échec. Et l'alliance de Moïse a échoué parce que les Juifs qui faisaient partie de cette alliance ont échoué. Ils ont échoué minablement d'ailleurs. Et Jérémie chapitre 11 nous parle de cet échec. Donc si vous pouvez encore tourner avec moi, je crois que ça nous fera du bien de voir ces paroles de nos propres yeux pour pouvoir suivre en Jérémie chapitre 11 et verset 1. Où nous voyons que l'alliance en fait a été gardée pour Dieu. Dieu a fait sa part. Mais vous rappelez que dans cette alliance, les enfants d'Israël étaient obligés à faire leur part pour pouvoir garder l'alliance. Et chaque fois qu'un homme est obligé à faire sa part pour que l'alliance dure, elle va probablement faire faillite, va probablement terminer dans la ruine. C'est pour ça que nous avons des mariages qui sont des alliances entre deux personnes, un homme et une femme, qui terminent si souvent dans le divorce. Pourquoi? Parce que les hommes n'arrivent pas à garder les alliances qu'ils font. Ils font des promesses, c'est facile à faire des promesses, mais ils ne les gardent pas. Et on a entendu que les enfants d'Israël, ils ont fait des promesses. Ils ont dit, on va garder toutes ces lois, Seigneur, ne t'inquiète pas. Et ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas gardé leur alliance. Et regardez ce que dit le prophète en Jérémie chapitre 11. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance. Vous voyez, il parle d'une alliance maintenant. Et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrit à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, c'est l'alliance de Moïse. De la fournaise de fer en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ai ordonné. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays qui coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, éternel. Maintenant, versets 6 à 8, nous allons voir que Dieu, solennellement et constamment averti, mais pourtant en vain. Regarde ce que Dieu fait en verset 6. L'Éternel me dit, publie ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Verset 7, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, vous voyez? Ils n'ont pas écouté, verset 8, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont par contre suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Et puis les versets 9 à 13, nous voyons qu'Israël et Juda ont brisé l'alliance, ayant pour résultat leur propre destruction. Hein, notez la réponse de Dieu dans le verset 11, par exemple. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Une leçon pour la vie, hein, juste un mot à part. Il y a une prière qui vient trop tard. Attention, parce qu'il y a des prières qui viennent trop tard. Et en fin de compte, ce que nous voyons de ces versets, que l'alliance a échoué, pas de tout en raison d'un défaut de la part de Dieu. Dieu est resté fidèle, même endurant, plein de patience, il les avertissait. Regardez le verset 7, il dit, « Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Ça fait plus de 800 ans. Alors ça, c'est de la patience, n'est-ce pas? Il attend 800 ans avant de les envoyer en captivité. Ah oui, il est plein de patience. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté sa voix. Ils n'ont pas pu garder l'alliance. Et donc, ils ont dû être maudits par les maux de cette alliance. Nous avons fini maintenant avec Jérémie. Retournons en Hébreux. Parce que Hébreux chapitre 8, cette fois-ci, va renforcer cette même idée. Prenez-le avec moi. Hébreux chapitre 8. Il parle aussi de l'échec de cette alliance de Moïse. Et rappelez-vous, c'est ce que nous considérons maintenant. Hein. Nous considérons l'échec de l'alliance de Moïse. Et on veut se dire pourquoi est-ce qu'elle a échoué. Et Hébreux chapitre 8 et verset 7 nous dit que si cette alliance dont nous parlons avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Quelqu'un dit peut-être, pourquoi est-ce que nous n'avons pas toujours cette alliance aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas toujours l'alliance de Moïse qui est en force aujourd'hui? Et il nous dit ici en Hébreux 8, 7, eh bien si elle avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est évident donc que l'alliance a fait défaut quelque part. Il la met ici dans ce verset. Mais nous devons encore être bien clairs, je le dis déjà, je le redirai, le problème avec la première alliance n'avait rien à faire avec le travail de Dieu. Chaque travail que Dieu fait est parfait par rapport à son but. Mais l'alliance de Moïse a été défectueuse parce qu'elle ne pouvait pas rendre les participants parfaits. Le prochain verset nous l'indique. C'est parce qu'il ne pouvait pas rendre les gens parfaits. Regardez le verset 8 quand il dit « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. » Ou mieux, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare. Et il continue. Vous voyez, Dieu trouve quelque chose à reprocher son peuple sous cette alliance. Pour le même d'une manière différente, la première alliance a échoué parce que tandis qu'elle exigeait au peuple une certaine norme, elle ne fournissait pas la puissance et le pouvoir de pouvoir garder cette norme. Effectivement, nous trouvons que la loi n'a jamais été conçue pour nous donner la puissance d'arriver au ciel. La loi a été conçue par Dieu afin de révéler la norme, mais elle n'a jamais été conçue par Dieu pour permettre aux hommes d'observer la norme. Vous voyez la différence? Quand la loi arrive, quand l'ancienne alliance arrive, elle vous dit, voilà ce que vous devez faire pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas une échelle pour vous aider à grimper vers le ciel. Ça vous donne pas d'aide, ça vous donne pas de puissance, ça vous dit tout simplement, voici la norme. Pour plaire à Dieu, il faut faire ça, et sinon vous êtes condamné, et ça vous laisse sans puissance pour le garder. Et c'est pour ça qu'elle a fait faillite. Et rappelez-vous, si c'est une alliance qui est faite entre deux individus, il faut l'échec de la part d'une seule personne pour causer l'échec de l'alliance propre. Et avant de juger ces juifs, hein, avec un air suffisant et dire « quel rebelle !» demandons-nous nous-mêmes si nous aurions pu garder les termes de cette alliance. Si nous aurions pu garder le décalogue, les 10 commandements, avec toutes ces lois qui l'ont accompagné. Et en fin de compte, Paul nous dit que la loi, ce code moral qu'ils ont été ordonnés d'obéir sous l'ancienne alliance, que quand cette loi fait face à la chair non régénérée, elle n'aide jamais la situation, mais elle l'aggrave. Quand on applique la loi à la chair non régénérée, elle ne va jamais aider cette personne, elle va plutôt aggraver la situation, parce qu'elle va démontrer le péché qui existe déjà. La loi morale de Dieu a toujours eu le même effet, même aujourd'hui. La grâce, elle démontre nos péchés, mais ça ne nous aide pas. Et Paul explique que l'échec de l'ancienne alliance de la loi n'était pas du fait que la loi elle-même était mauvaise. Il dit en Romains, loin de là, loin de là. Le problème était avec le péché qui saisissait l'occasion et qui séduisait les hommes par la loi et puis les tuait. Vous pouvez le lire en Romains chapitre 7. C'est le péché qui entre, qui prend la loi, qui la torde et qui après tue l'homme même par la loi de Dieu. C'est le péché qui est entré, qui a causé l'échec de cette ancienne alliance. Ainsi, le problème était l'utilisation trompeuse de Satan de la loi. Vous dites, bon, ça a à faire avec eux, est-ce que ça a à faire avec aujourd'hui? Et ma réponse est oui. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui aujourd'hui sont en train d'arriver au ciel par les termes de cette ancienne alliance. C'est-à-dire par la loi, en gardant la loi, en faisant des choses. Des millions de personnes, il y a des religions qui sont construites autour de cette idée que pour arriver au ciel, il faut garder les termes de l'ancienne alliance, il faut garder les termes de la loi. Bon, ils changent les lois, chacun a ses propres lois, mais quand même c'est la même chose. C'est ce qu'on fait pour grimper tout seul vers Dieu. Et Dieu nous donne le peuple d'Israël pour nous démontrer que non, ça ne peut jamais réussir. Quand on donne la loi aux personnes, même si c'est la loi parfaite de Dieu, l'homme va toujours, toujours, toujours désobéir et ne va jamais réussir à le garder. Eh bien, pour introduire mon troisième point, je veux que nous regardions un verset en Hébreux chapitre 8, qui est la citation la plus longue d'un passage de l'Ancien Testament. En Hébreux chapitre 8, vous avez plusieurs versets qui citent un passage de Jérémie chapitre 31. Donc, on aurait pu aller à Jérémie 31, mais puisqu'on y est déjà, on restera en Hébreux. Et je veux que nous ignorions le contexte pendant un moment pour regarder le verset 9, qui est une citation de Jérémie 31, verset 32. Ce dont il parle n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc là, c'est l'alliance de Moïse, juste après qu'il soit sorti de l'Égypte. Et il dit, alors, ce dont je parle maintenant, ce n'est pas comme cette alliance de Moïse. Car cette alliance, ils n'ont pas persévéré dans cette alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Il fait ressortir le contraste qui existe entre ces deux alliances. Il dit, cette deuxième alliance n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Elle est différente. Hein, elle n'a rien presque de pareil. Et donc, quoi qu'elle soit, cette nouvelle alliance, nous ne pouvons pas la comparer avec l'ancienne. Nous devons plutôt les contraster l'un contre l'autre. Eh bien, on demande, qu'est-ce qui est qui rend cette nouvelle alliance si différente que l'ancienne alliance de Moïse? Eh bien, regardez le début de la citation de l'Ancien Testament qui commence par le mot « voici » dans le verset 8. Hein, vous y êtes, Hébreux 8, verset 8, citant Jérémie 31, 31. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Notez ça, quoi? Une alliance nouvelle. Vous voyez? Là, vous l'avez. Ce n'est pas une ancienne alliance modifiée, ni même une chance à un nouveau départ dans cette ancienne alliance. C'est une alliance nouvelle. Donc après avoir vu l'inauguration de l'ancienne alliance et l'échec de cette même alliance, nous voyons troisièmement la promesse d'une nouvelle alliance. La promesse d'une nouvelle alliance qui nous vient en Jérémie. C'est Jérémie qui le donne. Bon, regarde en hébreu, mais nous pouvons le trouver dès le prophète Jérémie. Qui est très intéressant de voir la grâce de Dieu. En Jérémie, il annonce finalement, c'est fini, vous n'avez pas gardé cette alliance, je vais vous amener dans la captivité, c'est un échec, et puis il annonce dans sa grâce la venue d'une meilleure alliance. Ça me rappelle de Genèse chapitre 3, où Dieu maudit l'homme et la femme, il leur chasse du jardin, mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Il leur promet la grâce et un sauveur. Voici la promesse d'une nouvelle alliance qui va venir. Et on a des questions concernant cette nouvelle alliance. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces deux alliances vont coexister? Est-ce qu'ils vont coexister l'une avec l'autre? C'est une question très importante pour un juif qui veut savoir s'il a toujours besoin de garder les termes de l'ancienne alliance, même s'il fait partie de la nouvelle alliance. Et même pour un païen, pour nous, j'imagine que la plupart d'entre nous sont des païens par rapport aux juifs. C'est important pour nous parce qu'il faut savoir, est-ce que nous devons, en tant que païens, même garder les termes de l'ancienne alliance? Parce que même les païens, dans l'Ancien Testament, ils étaient sauvés par la foi, pas par les œuvres, mais puisque cette ancienne alliance était en force, ils devaient se soumettre aux termes de cette ancienne alliance et devenir prosélytes des juifs. Bon, la réponse est oui ou non. Est-ce que ces deux alliances vont coexister? La réponse est non, nous dit l'auteur d'Hébreu. Regardez le verset 13 de chapitre 8. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Et alors il ajoute, or ce qui est ancien, ce qui vieillit, est prêt de disparaître. Il dit, de l'ancienne alliance, quand la nouvelle arrivera, l'ancienne sera ancienne, elle va disparaître. Donc ils ne vont pas coexister. Si vous êtes sous la nouvelle alliance, vous n'êtes plus sous l'ancienne alliance. J'espère que c'est de la bonne nouvelle pour nous tous. Et alors on se demande, pourquoi est-ce que cette nouvelle alliance est-elle meilleure? Bon, pour nous c'est évident. En 2009, nous voyons la nouvelle alliance dans le sang de Christ, nous voyons qu'elle est beaucoup meilleure. Mais pour un juif, au temps de Jérémie, Dieu promet une autre alliance, il va se dire, mais est-ce qu'elle va être comme la première, hein? On n'a pas pu garder la première alliance, on va recommencer, on va faire la même chose. Non, 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 on ne va pas refaire la même chose. Est-ce qu'elle va être meilleure, cette nouvelle alliance? Et Jérémie leur donne la réponse. Et sans donner une exposition de ce passage, c'est facile de voir plusieurs choses. Regardez le verset 6, par exemple, d'Hébreu. « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. » Vous voyez, cette alliance, selon Hébreu, est plus excellente. Elle est meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle a été établie sur de meilleures quoi? De meilleures promesses. Réfléchissez avec moi de l'ancienne alliance. Vous êtes un juif, une juive, vous entendez les promesses là, devant la montagne de Dieu, et il y a plein de promesses. Mais devant chaque promesse, il y a le petit mot, quoi? Si, n'est-ce pas? Si vous faites ceci et cela, je vous bénirai. Si vous obéissez à mes paroles, je vous bénirai. Si vous faites ceci, je vous donnerai le pays, je vous donnerai le repos. Si, 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 si. Mais par contre, si vous n'obéissez pas, eh bien, il y a tous ces malheurs qui vont vous arriver. Vous pouvez le lire. Toutes les promesses sont conditionnelles sous l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible selon la nouvelle alliance? Nous avons de meilleures promesses. Et ces promesses qui nous est données dans la nouvelle alliance ne sont pas conditionnelles. Il n'y a pas de si. Dieu ne dit pas, vous devez faire ça et je ferai ça. Vous allez voir, toutes les promesses que Dieu donne, il dit tout simplement, je vais faire, je vais faire, je vais faire. C'est moi qui va s'occuper de l'alliance, complètement. Et une chose qui le rend meilleur est le fait qu'elle a de meilleures promesses ou provisions, qui est décrit dans les versets 10 à 12. C'était quoi ces promesses de l'ancienne alliance? Regardez le verset 10. Voici mon alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Donc voici l'alliance, après ces jours-là, dit le Seigneur. Il y a au moins trois choses qu'il promet de faire. Ce sont les promesses. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que nous avons là? Quand Moïse est descendu la montagne, où étaient les lois de Dieu? Écrites sur des quoi? Des tablettes en pierre, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il va mettre ses lois dans la nouvelle alliance? Je mettrai mes lois où? Dans leur esprit et dans leur cœur. Il y a d'abord une intériorisation de la loi. C'est-à-dire une nouvelle contrainte intérieure. Plus des lois externes, mais une force interne qui effectuera le rapport avec Dieu. C'est quelque chose maintenant, sous la nouvelle alliance, qui est interne, au-dedans de nous. Pas simplement externe. Sous l'ancienne alliance, c'était que externe. Il n'y avait rien de changé en eux. Puis regardez le verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Sous l'ancienne alliance, il y avait plein de personnes qui faisaient partie de l'ancienne alliance, ils étaient juifs ou juives, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Il fallait que les prophètes reviennent fois après fois, disent « Vous avez oublié Dieu, vous faites partie de cette alliance, mais vous avez oublié Dieu, vous ne connaissez même pas Dieu ». Mais par contre, sous la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il dit dans verset 11 ? Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Il y a là une promesse d'une connaissance universelle, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de cette nouvelle alliance du Seigneur, tous connaîtront le Seigneur. Chaque personne éprouve une relation personnelle et une connaissance réelle du Seigneur. Chaque personne qui fait partie de cette nouvelle alliance. Et comment ça? Regardez le verset 12, parce que cette dernière promesse sert vraiment de base à la précédente. « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il y a la rémission complète, finale et totale. Le pardon des péchés. Qu'est-ce qu'il a dit en Jérémie? « Je me souviens depuis 800 ans, vous n'écoutez pas ma voix. » Maintenant il dit sur la nouvelle alliance, « Je me souviendrai plus de leurs péchés. » Dans l'ancienne alliance, vous avez un souvenir continuel du péché dans les sacrifices. Chaque fois que vous offrez un sacrifice, ça vous rappelle que vous avez péché. Et le sacrifice, il dure qu'au prochain péché. Et puis, un autre sacrifice doit être offert à Dieu. L'alliance de Moïse n'a fourni aucune base finale pour le pardon de Dieu. En fait, comme nous lisons en Romains 3, l'ancienne alliance laissait Dieu avec le besoin de se justifier pour avoir pardonné les personnes. Parce qu'il n'y avait pas de base dans l'ancienne alliance pour le pardon de Dieu. Que pour son jugement. Donc la nouvelle alliance est meilleure parce qu'elle est fondée sur de meilleures promesses. Et une chose qui est importante à noter, c'est que dans ce passage, il nous enseigne que ceux qui font partie de cette nouvelle alliance ne sont pas définis par une descendance physique. Vous avez noté cela? Il n'y a rien là au sujet d'être fils ou fille de quelqu'un d'autre. Sous l'ancienne alliance, tu avais affaire avec quoi? Vous étiez le fils de quelqu'un qui était le fils de quelqu'un qui était le fils de quelqu'un qui était le fils d'Abraham. Même les juifs au temps de Jésus. Abraham est notre père. Hein, c'était la parenté physique qui comptait. Maintenant, pour ceux qui font partie de cette nouvelle alliance, nous ne parlons plus de la parenté physique. Et donc les membres de la nouvelle alliance ne sont pas définis par une parenté physique, comme les membres de l'ancienne alliance étaient, mais par le fait que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur, par le fait qu'ils ont une connaissance personnelle de Dieu, qui s'obtient par la repentance et par la foi. Et donc ça, c'est un peu à côté, mais je veux que vous pensiez au signe de la nouvelle alliance. La circoncision était le signe de l'ancienne alliance, qu'on appartenait à l'ancienne alliance. Et le baptême est le signe qu'on appartient à la nouvelle alliance, qui en fait part par la foi et pas par notre parenté physique. Et c'est pourquoi, ici à cette église, nous baptisons pas les bébés, dont le seul rapport avec l'église est d'une parenté physique, mais nous baptisons ceux qui peuvent rendre témoignage au fait qu'ils font partie de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, ils connaissent le Seigneur, ils ont le pardon du péché, ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Parce que le baptême est le signe d'appartenir à cette nouvelle alliance qui n'est pas déterminée par une parenté physique, mais par une transformation spirituelle démontrée par la foi. C'est ça ce que le baptême veut dire. Donc finalement, la question qui reste à poser, c'est quand est-ce que cette nouvelle alliance a-t-elle été inaugurée? Hein, Jérémie nous dit que ça va être inauguré, mais quand est-ce que ça va être inauguré? Ou quand est-ce que ça a été inauguré? Et laissez-moi vous rappeler qu'avec l'ancienne alliance, ainsi la nouvelle alliance avait besoin d'un médiateur. Et comme l'ancienne alliance, la nouvelle alliance doit être inaugurée avec l'effusion du sang. Donc considérez l'inauguration maintenant de cette nouvelle alliance. Jérémie, cité en Hébreux 8, nous a donné les promesses de cette nouvelle alliance. Mais ce que Jérémie ne nous a pas donné, mais que nous trouvons en Hébreux, c'est comment cette nouvelle alliance a été inaugurée, spécifiquement qui est le médiateur et quel sacrifice de sang a été employé. Donc puisque nous sommes déjà en Hébreux 8, notons d'abord le médiateur de cette nouvelle alliance. Le médiateur de cette nouvelle alliance, ce n'est pas Moïse. Regardez le verset 6. Maintenant, il, et c'est qui il? Bon, vous devez le prendre depuis le contexte qui vient avant. Ça parle de Jésus-Christ. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Il est le médiateur. Donc c'est pas Moïse, c'est Christ. Si vous n'êtes pas sûr, nous allons le revoir en Hébreux chapitre 9. Et nous voulons poser cette question-ci. C'est quoi le sang de la nouvelle alliance? Quel est le sang qui est utilisé dans la nouvelle alliance? Regardez Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu, Hébreux 9, 11, Christ, hein, donc on parle de Jésus-Christ, est venu comme souverain sacrificateur des bienvenirs. Donc nous avons l'image ici de Jésus-Christ comme le sacrificateur, c'est-à-dire celui qui va offrir le sacrifice. C'est comme Aaron dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur. C'est Jésus maintenant qui va venir offrir le sacrifice. Oui, mais quel est le sacrifice qu'il va offrir? Qu'est-ce qu'il va porter dans ses mains? Quel type de sacrifice? Est-ce qu'il va faire comme Aaron et porter des boucs et des veaux? Continuez à lire. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ce qu'il dit ici, c'est la réalité de ce que Christ a fait n'était pas simplement terrestre, mais céleste. Jésus a fait quelque chose au ciel pour l'éternité, pas simplement dans le temps passé dans le tabernacle. Verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Avec quel sang? Non, avec le sang des boucs et des veaux. Ah d'accord, donc nous savons que c'est pas ça. Hein? Ce qui est en contraste avec l'inauguration de l'ancienne alliance, c'est que cette nouvelle alliance n'est pas avec le sang des boucs et des veaux. En fait, c'est un contraste que Jérémie nous a pas donné. Hein? Donc, est-ce qu'on doit arrêter là, revenir la semaine prochaine pour savoir ce que c'est? Non, je sais que vous voulez tous rester. Mais c'est avec quoi? Dis-le-moi. C'est avec son propre sang. Donc, il arrive comme sacrificateur, mais il arrive avec son propre sang. C'est-à-dire, il est le sacrificateur et il est le sacrifice, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car, verset 13, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurés la pureté de la chair, c'est-à-dire la sanctification externe et cérémonieuse de la chair corporelle des personnes, ils pouvaient faire ça et pouvaient ensuite entrer dans le tabernacle ou dans le temple, ça servirait à des choses externes. Verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes? Voyez, ce que Dieu donne, il purifie à l'intérieur, pas simplement à l'extérieur et cérémonieuse, mais à l'intérieur et interne, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc, si vous n'étiez pas d'accord que c'était Christ, là, vous le voyez très clair. C'est lui, Jésus-Christ, qui est maintenant, verset 15, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et ce verset est fascinant parce que la Bible nous dit que même les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient que être sauvés par les provisions fournies sous la nouvelle alliance. l'ancienne alliance n'a pas pu les sauver. Ça n'a jamais été donné pour les sauver. Donc le verset 15 nous dit que ce médiateur d'une nouvelle alliance est mort ayant intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. C'est-à-dire quand Christ est mort pour Abraham. Il est mort pour Isaac. Il est mort pour David. Pour tous les péchés commis sous cette première alliance qui ne pouvait sauver personne. Donc puisque la Bible est si claire que les saints de l'Ancien Testament pouvaient que être sauvés par les provisions de la nouvelle alliance, il me mène à croire qu'ils pouvaient également apprécier beaucoup de ses promesses. Hein? Comme la loi écrite dans le cœur, la connaissance de Dieu, le pardon des péchés. Et ça nous explique un peu pourquoi Paul va dire plus tard que tout Israël n'est pas Israël. Dans un sens, oui, tout Israël fait partie de l'ancienne alliance, mais pas tout Israël fait partie de la nouvelle alliance. Mais que ceux qui sont pardonnés, qui ont la connaissance de Dieu dans le cœur. Et c'est pourquoi en Luc chapitre 22 verset 20, que nous avons lu au début du message, au dernier souper, il indique que Jésus a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, quand est-ce que la nouvelle alliance a été inaugurée? Eh bien, elle a été inaugurée par l'œuvre médiatrice de Jésus-Christ lui-même, quand il a versé son propre sang comme sacrifice propitiatoire pour le péché de son peuple. Il a inauguré maintenant une nouvelle alliance dans son sang. Ce qui nous amène à ce que nous voulons faire maintenant. Et c'est la célébration de cette nouvelle alliance. Et pour cela, je vous demande de tourner une dernière fois, je vous le promets, à 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Si vous connaissez le Seigneur ce matin, vous faites partie de cette nouvelle alliance. Et nous sommes appelés à le célébrer. Nous n'avons plus les mêmes fêtes que les Juifs avaient pour célébrer l'ancienne alliance. Vous savez peut-être, vous connaissez un peu l'Ancien Testament, qu'il y avait des fêtes où chaque année, tout le monde se rendait à Jérusalem pour fêter l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Nous n'avons plus ces mêmes fêtes, mais nous avons un souper, le souper du Seigneur, et il est censé d'être une occasion aussi joyeuse pour nous que les fêtes de l'Ancien Testament étaient pour Israël. Nous fêtons cette nouvelle alliance. Et nous, surtout en tant que païens, qui n'avaient pas droit de faire partie de l'ancienne alliance, nous avons le droit de faire partie de la nouvelle alliance qui est beaucoup mieux. Donc nous avons beaucoup pourquoi célébrer. Regardez 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 23, où Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle, donnez-moi le mot là, la nouvelle, quoi ? Alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Les amis, ce que nous faisons dans la Sainte Cène, nous célébrons la nouvelle alliance qui a été inaugurée et acquise pour nous dans le sang de Jésus-Christ. Pas par nos œuvres, pas par ce que nous aurions pu faire, mais par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors je vous demande, faites-vous partie de cette nouvelle alliance? Vous ne faites pas partie de cette alliance en étant né dans une certaine famille ou une race ou étant baptisé dans une certaine église ou religion. Ce n'est pas de tout ce que vous faites. Il exige l'œuvre régénératrice de l'Esprit Saint. Dieu doit littéralement vous faire une nouvelle création. Ça prend un acte de création. Et alors, au moins que le Seigneur vous sauve, vous êtes sans espoir. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour faire partie de cette nouvelle alliance. Il n'y a aucune prière que vous pouvez prier, aucun travail que vous pouvez travailler, aucun prix que vous pouvez payer, aucune ardeur que vous pouvez démontrer. C'est le travail de Dieu. Il fait tout, il dit. C'est moi qui mets la loi dans leur cœur, c'est moi qui me démontre à eux, c'est moi qui fais tout. Si vous faites partie de cette nouvelle alliance, c'est que Dieu vous l'avait fait part. Alors je vous demande, appréciez-vous les avantages de cette nouvelle alliance? Connaissez-vous cette intériorisation de la loi, une nouvelle contrainte à l'intérieur? Plus que des lois externes, mais cette force interne qui change votre relation avec Dieu. Connaissez-vous Dieu en tant qu'ami? Avez-vous éprouvé la rémission complète et finale de vos péchés? Alors je vous dirai une chose. Votre espoir, si vous dites, comment faire part de cette alliance? Est-ce que j'ai de l'espoir? Votre espoir est le seul espoir pour vous de faire part à cette alliance et de trouver le médiateur de cette alliance. Vous devez fuir à Christ. Parce que Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est au médiateur que vous devez fuir. C'est à lui que vous devez crier, pleurer, prier, demander la grâce. Il dit, celui qui vient à moi, je ne le repousserai jamais. Donc je vous dis, venez à Christ. Et si vous faites partie, si vous êtes un membre de cette nouvelle alliance, et si vous êtes en bonne relation avec Dieu, si votre conscience ne vous condamne pas, s'il n'y a aucun péché non confessé, aucune commande ignorée, eh bien, vous êtes invité à participer à cette célébration de la nouvelle alliance dans le sang de Christ. C'est la table du Seigneur et c'est pour chaque croyant qui fait partie de la nouvelle alliance. Chacun, chacune qui a été lavé dans le sang de l'agneau. Ce que nous voulons faire à ce moment. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions qu'en 2009, nous sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous n'aurions pas fait mieux que les enfants d'Israël en la gardant. Nous démontrons chaque jour que nous ne pouvons pas garder la loi de Dieu. Mais nous te rendons grâce et nous disons merci du fond du cœur du fait que tu as pas seulement promis une meilleure alliance, mais que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour établir cette alliance entre Dieu et l'homme dans son propre sang. Un sang qui ne peut pas être rejeté. Un sang qui est efficace. Et nous avons dans cette alliance toutes les promesses. Si nous avons Christ, nous avons toutes les bénédictions de Christ et de l'éternité. Il n'y a pas de condition sur ton amour pour nous. Nous prions que tu révèles à chacun et chacune ici ce matin s'ils font part ou non de cette alliance, s'ils connaissent dans leur cœur le Seigneur Dieu, s'ils ont cette loi écrite dans leur cœur, cette force interne qui les pousse vers Dieu, l'Esprit de Dieu habitant en eux. Et nous te demandons de révéler la vérité de notre condition spirituelle à chaque personne. Et ô Seigneur, empêche qu'il y aura quelqu'un ici qui soit comme ceux dans l'Ancien Testament, qui n'ont pas prêté l'oreille, tandis que tu as dit chaque matin, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Empêche qu'il y a quelqu'un ici qui ne prête pas l'oreille, qui refuse d'entendre, qui refuse de faire face à Dieu, face à ses propres péchés, face à l'éternité qui approche. Que chacun puisse régler son compte, soi-disant, avec toi. Et nous prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen.